Ça commence bien. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette séance, cette session d'étude de la parole de Dieu avec le thème « Servir en temps de défi ». Dieu est bon, Dieu est fidèle et même en temps de défi, Dieu ne change pas. Dieu reste Dieu. Sa bonté, sa fidélité, sa grandeur, n'est pas terni par la pandémie. Au contraire, il se glorifie davantage et nous nous approchons davantage de lui. N'oublions pas que nous avons un thème pour cette année, que c'est de se préparer et que tout ce que le Seigneur nous donne depuis le début de l'année, dans le fond, va en lien avec cet objectif-là, avec ce thème de se préparer. De se préparer pour être l'Église, pour être les serviteurs, les servantes que Dieu s'attend d'utiliser dans les temps que nous vivons. Et c'est un temps rempli de défis, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu est plus grand que tout et c'est un immense privilège que nous avons de pouvoir servir ce Seigneur. Nous allons prier, nous allons remettre entre les mains du Seigneur ce temps que nous allons passer ensemble. Encore une fois, merci d'être, pour ceux qui sont fidèles, merci d'être fidèles. Et pour ceux qui se joignent, bienvenue. On espère que vous allez faire cette route avec nous. On va remettre ce temps dans les mains du Seigneur et puis on va également prier pour nos bien-aimés. On est dans un temps de reconfinement partiel, mais qui quand même peut ébranler certaines personnes. C'est une personne qui vit seule et n'espérait pas qu'on se retrouve dans cette situation aussi et qui ont besoin. On a tous besoin de compagnie, on a tous besoin de socialiser. Et donc, on va prier pour nos bien-aimés. Peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez aussi qui ne sont pas chrétiens et qui vivent difficilement cette période-ci. On va remettre ces personnes-là entre les mains du Seigneur. Par la suite, on va lire le passage pour cette semaine et on va rentrer dans l'étude. Père éternel, nous te rendons grâce, te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Parce que, Seigneur, sans toi, nous serions perdus. C'est toi qui as fondé, Seigneur, la terre, c'est toi qui as créé l'univers. Toute la création, Seigneur, repose sur toi, Seigneur, en toi et pour toi, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, ici pour apprendre plus de toi. Toi, le Dieu d'éternité. Toi, le Sauveur du monde. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur, nous voulons apprendre plus de ta présence, plus de ta parole, Seigneur, qu'elle vienne nous transformer, nous interpeller, nous instruire. Et également, Seigneur, nous corriger. Que nos regards, Seigneur, soient posés sur toi ce soir. Et non pas, Seigneur, sur les circonstances autour. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Chaque aspect de notre vie, Seigneur, est à tes bons soins. Et nous pouvons constater, Seigneur, ta fidélité à tout moment et en toutes circonstances. Ce soir, on prie, Seigneur, de façon particulière pour tous nos bien-aimés, Seigneur, qui vivent ce temps de reconfinement avec difficulté. Qu'ils luttent, Seigneur, avec des pensées, qu'ils luttent, Seigneur, avec des sentiments. Je te demande, Seigneur, que ta grâce puisse, Seigneur, les envahir, que ta présence et ton amour, Seigneur, puissent envahir leur cœur, puissent envahir, Seigneur, leur chambre, leur appartement, leur logement, Seigneur. Que tu remplisses, Seigneur, leur vie et ce lieu de ta présence, de la chaleur, Seigneur, de ta présence. Prie également, Seigneur, pour les gens autour qui peut-être, Seigneur, prennent mal, Seigneur, ce reconfinement, Seigneur, et qui ont de la misère, Seigneur, à vivre avec ces changements, Seigneur, et ces décisions. On te demande, Seigneur, que ta grâce repose, que ta paix, Seigneur, qui surpasse tout entendement, repose sur leur vie, qu'il éloigne, Seigneur, les mauvaises pensées, éloigne, Seigneur, les idées noires, Seigneur, de ces gens, et même de ton peuple, Seigneur. Illumine, Seigneur, ton peuple par ta présence, Seigneur, et par ta parole, Jésus. Nous avons prié dans ton précieux nom, Père. Amen. Amen. Donc, allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons lire un nouveau passage dans Marc, mais on reste toujours au chapitre 6. Ça fait 3 mois, vous me direz peut-être qu'on est dans le chapitre 6. Eh bien, c'est ça la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller puiser. On est rendu à la 19e semaine, puis on aurait pu faire 19 semaines sur le même verset, et à chaque semaine, on aurait appris quelque chose de différent. Alors, aujourd'hui, nous allons, dans la lecture, à partir du verset 30 au verset 44. Donc, c'est l'événement de la multiplication des pains. Donc, nous faisons la lecture maintenant. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Et ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. 5 000 hommes. Donc, on compte juste les hommes, mais là, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, il y avait beaucoup plus de gens qui ont été nourris. Donc, voilà, multiplication des pains. Mais avant, comme d'habitude, allons faire un petit survol de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de Jean-Baptiste et on a parlé de l'héritage de Jean-Baptiste et de l'exemple que Jean-Baptiste nous a laissé en tant que serviteur de Dieu. C'était un homme avec une vie unique, avant même sa naissance. Le prophète Ésaïe l'annonce des siècles à l'avance. C'est un homme qui, même avant le début de sa vie, sa naissance, avait été rempli du Saint-Esprit et était destiné à quelque chose de vraiment unique et merveilleux. Et c'est l'homme qui avait été choisi par Dieu, le serviteur qui avait été choisi pour annoncer la venue du Messie, pour préparer les cœurs à l'arrivée du Messie et au temps opportun, lorsqu'il a vu Jésus s'approcher de lui, de le présenter à tout le monde en tant que sauveur du monde. Et On a vu également le passage où est-ce que, dans le fond, il est mis à mort dans des circonstances dramatiques et vraiment injustes. Et à travers ce passage-là, on disait que Dieu voulait nous faire comprendre un message clair par rapport à ce qui attend les serviteurs de Dieu, à ce qui attend les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est de faire face au mépris et même de faire face à la mort. que Dieu, dans le fond, nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire qu'il y a cette menace, il y a cette réalité-là. Toutefois, nous avons cette unique opportunité de servir Dieu dans ce contexte-là. L'héritage de Jean-Baptiste est un héritage précieux parce qu'il nous démontre que le serviteur de Dieu ne doit pas faire de compromis quant au message. Le message que Jean avait lorsqu'il était au bord du Jourdain, lorsqu'il était dans le désert, tout comme lorsqu'il était emprisonné par Hérode, est toujours resté le même. On a aussi compris que le serviteur ne doit pas s'attendre à un traitement juste de la part des hommes. Des fois, nous, on aimerait que, parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on est roi, fils du roi, et des fois même, on gonfle le torse pour dire, hey, je suis enfant de Dieu, je dois être bien traité, parce que je suis enfant de Dieu. Eh bien, Jésus a été mis à mort, donc, et beaucoup des disciples, tous, sauf un, ont été tués également, donc, je veux dire, OK, on peut gonfler le torse, aussi gros qu'on voudra, le fait est qu'on ne doit pas s'attendre à avoir un traitement juste de la part du monde. S'il y a du mépris, s'il y a du rejet, et on le constate déjà de plus en plus ici, localement, en Amérique du Nord, mais dans d'autres continents, c'est la réalité quotidienne de nos bien-aimés qui s'affichent en tant qu'enfants de Dieu. Donc, l'autre chose également, c'est que le témoignage serviteur est important en tout lieu et en tout temps. En prison, emprisonné, privé de liberté comme à l'air libre, le témoignage est important. Et c'est ce qui faisait que Hérode avait peur de Jean. Jean était tout ce qu'Hérode n'était pas. Jean était juste envers les hommes. Jean était saint. Jean était intègre. Tout ça, Hérode ne l'était pas. Et Hérode avait peur. Hérode avait peur de Jean qui était en prison. Imaginez un peu. Donc, l'impact du témoignage est puissant et profond également. Et doit nous interpeller à nous tous, en tant que serviteurs de Dieu, quel est notre témoignage? Et est-ce que notre témoignage change selon les circonstances? Est-ce que notre message change selon les situations que nous sommes en train de vivre? Jean-Baptiste était unique de par sa mission d'annoncer d'annoncer le Messie et de le présenter au monde. Et de préparer également les cœurs pour la venue du Messie. Et nous ne sommes pas si différents ça, de Jean-Baptiste quant à la mission, parce que nous avons la mission de préparer les cœurs pour le retour du Seigneur Jésus-Christ et d'annoncer le Messie, de pointer vers le Messie et de dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la réponse à ta souffrance. Voilà la réponse à la douleur de ta vie à cause de ta vie pécheresse. Donc, voilà en gros ce que nous avions parlé la semaine dernière. Donc, nous allons maintenant entrer dans la séance d'aujourd'hui. Et là, il faut déjà s'arrêter dans la première phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui a attiré mon attention et qui doit attirer la vôtre aussi. Dès la première phrase, Marc nomme les disciples alors qu'ils reviennent de mission. Vous vous souvenez, il y a deux semaines avant, on parlait justement de la préparation, de la mobilisation, donc Jésus qui envoie les 12, deux par deux, pour aller dans les villages et les villes alentours pour prêcher, avec la puissance aussi pour guérir des malades et chasser des démons. Et voilà qu'ils reviennent. Et lorsqu'ils reviennent, Marc ne les appelle pas disciples, mais il les appelle apôtres. Et c'est ce qu'on trouve au verset 30. Lorsqu'il dit les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus. Donc, ce n'est plus, ils ne sont plus appelés disciples. En fait, ils sont plus appelés plus loin disciples encore, mais pour la première fois, du moins dans le livre de Marc, les disciples sont appelés apôtres. Intéressant parce que bien des fois, on pense que ils ont commencé à être appelés apôtres une fois que Jésus les a quittés physiquement. Et après le temps de Pentecôte et tout ça, mais ici, on voit clairement que très tôt dans le ministère, très tôt dans le service de Jésus, très tôt, ils ont été appelés apôtres. Donc, une démonstration qu'il y a eu une progression dans la vie de ses disciples, qu'il y a eu une croissance, une maturité dans la vie, dans le service de ces hommes-là. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que, bon, si on prend le terme disciple, en grec, c'est mathétès, qui veut dire étudiant, qui veut dire élève. Donc, quelqu'un qui est au pied d'un maître et qui apprend, qui est instruit, qui suit les pas. Donc, quand on dit on va suivre le Seigneur, quand Jésus dit viens et suis-moi et deviens mon disciple, c'est que je vais apprendre. Je vais être à tes pieds, je vais marcher dans tes pas. Je vais apprendre, tu vas m'instruire. De notre côté, le terme apôtre, c'est le terme grec apostolos, qui veut dire envoyé en avant, qui veut dire messager, ambassadeur. Donc, le fait que les disciples, les douze, soient passés de disciples à apôtres, veut dire qu'il y a eu un changement aussi dans leur vie, dans leur foi, dans leur maturité, même s'ils ont commis, entre autres, Pierre, ils ont commis des gaffes, et ils ont tous abandonné Jésus lorsqu'il a été arrêté, ils ont quand même été appelés apôtres. Ils sont passés d'un moment où est-ce qu'ils étaient au pied de Jésus, ils suivaient les pas de Jésus, ils allaient après Jésus pour un moment donné où est-ce qu'ils sont envoyés au devant, où est-ce qu'ils sont envoyés pour la cause de Jésus. Donc, une démonstration du progrès et de la croissance. On en a eu déjà quelques-unes, si vous souvenez bien, depuis le début de cette série d'enseignements, on avait parlé de la barque. Où est-ce qu'à un moment donné, la barque représentait justement cette progression dans le service, où est-ce que ça allait permettre à Jésus de pouvoir s'adresser à une plus grande foule, de pouvoir être plus efficace au niveau de son service. Par la suite, il y a eu cette implication des disciples dans le service lorsqu'il les a appelés et les a préparés pour les envoyer. Donc, ce n'était plus Jésus qui allait travailler, ça allait être aussi les douze qui allaient être impliqués dans ce service-là. Et voilà maintenant qu'on déclare les disciples qui sont appelés comme apôtres. Et remarquez qu'ils ont raconté à Jésus, premièrement, ils se sont rassemblés autour de Jésus. Donc, ils sont revenus. Ils sont revenus vers Jésus. Et ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et lorsque vous remarquez cela, ben c'est exactement un parallèle, c'est la même chose de ce que Jésus faisait. Jésus enseignait et Jésus guérissait. Jésus faisait des miracles, Jésus faisait des prodiges et Jésus annonçait la parole. Et c'est exactement ce que les apôtres ont fait. Et c'est exactement ce qu'un disciple ou un apôtre doit faire, c'est-à-dire de suivre, être sur les pas de Jésus dans tout ce que Jésus a fait et dans tout ce que Jésus a enseigné. C'est là l'importance pour nous de rester dans ce que Jésus a fait, dans ce que Jésus était. C'est là où est-ce que nous prenons tout notre sens. C'est là où est-ce que notre identité prend forme et également que notre but, notre vision s'éclaircit. Lorsque nous sortons de là, lorsque nous sortons de cela, on tombe dans quelque chose d'autre qui est charnel, qui est ambition humaine, qui est vouloir obtenir une reconnaissance. Des gens courent après des titres dans les églises, courent après un titre d'apôtre, courent après un titre d'évangéliste, courent après un titre de ça, mais à la base, dans l'essence même, il n'y a aucune vision, aucun intérêt, aucune motivation de suivre les pas de Jésus dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a enseigné de comment il a vécu également. Et ça, c'est dommage. Parce qu'un apôtre devrait faire exactement les mêmes choses de Jésus. Et des fois, on voit des gens qui s'autoproclament apôtres et ils font d'autres choses. Ils sont carrément, comme on dirait, ici au Québec, dans le champ gauche. Donc, l'importance de comprendre, OK, de passer de disciple à apôtre, mais toujours sous le modèle de Jésus. On n'a pas d'autre modèle à aller chercher. Notre modèle à nous, c'est Jésus. Donc, autant dans l'action, dans ce qu'il a fait, dans son service, tout comme dans son enseignement, ben c'est ça que nous, on doit aspirer. C'est ça ce que toi et moi, on doit aspirer. Donc, l'importance d'être un imitateur de Christ, et la Bible nous exhorte justement à être ce genre d'imitateur-là. Allons maintenant au verset 31 et 32. Verset 31, il dit, « Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que non seulement il y a eu un changement entre disciples à apôtres, mais leur vie aussi a reflété ce changement-là. Leur vie a passé d'une étape à une autre, a passé d'une phase à une autre. Auparavant, on voyait Jésus qui était au-devant et les disciples qui, des fois on ne les mentionnait même pas, mais on savait qu'ils étaient là. Mais ils n'étaient pas impliqués dans l'action. Et là, on voit qu'il y a ce changement-là où est-ce que les disciples sont, et les apôtres sont impliqués dans le service. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle réalité dans la vie de ces hommes, de ces douze. Une nouvelle réalité qui s'installe. Et cette réalité-là passe par une plus grande implication dans l'œuvre. À un point tel que la Bible dit, Marc prend le temps de spécifier ça, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de manger. C'est-à-dire que maintenant, les disciples, ils sont occupés. Ils ne sont pas juste les bras croisés ou dans l'attente ou dans l'observation de voir qu'est-ce que Jésus ferait. Non, ils sont impliqués là, dans le service. Ils sont là avec Jésus en train de servir. Et ils sont tellement occupés parce qu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses à accomplir, il y a tellement de services à rendre qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Donc, par là, on comprend également que la réalité du service commence à prendre forme dans la vie des disciples. Et là, on parle de sacrifice. On parle de commence à faire des sacrifices. On commence à vivre un peu les je dirais pas les contre-coups, mais les effets d'une vie de service. La Bible nous dit ici également au verset 31 qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers eux. Il y avait beaucoup de personnes qui partaient. Ils étaient... On dirait qu'il y avait un carrefour. Et c'est très, très précieux, cette image-là ou cette description-là, Parce qu'un disciple, un serviteur de Dieu, un vrai, qui est au service de Dieu, est véritablement au carrefour de la vie. Où est-ce que des gens viennent, des gens vont? Où est-ce que des gens passent, des gens restent, et d'autres s'en vont? On est tellement en contact avec des gens, et parfois ce contact-là avec ces gens-là est bref, est éphémère. Peut-être avec d'autres, il dure plus longtemps. Peut-être le contact avec certaines personnes est pour la vie. Ce sont des partenaires de service, de ministère, ou d'autres, c'est juste pour un instant. Carrefour de la vie aussi parce que serviteur de Dieu participe en aidant les gens, participe à toutes les différentes étapes de la vie. Un serviteur de Dieu peut servir des gens, que ce soit à la naissance d'un bébé, que ce soit dans un foyer, dans un mariage, auprès de jeunes, auprès de personnes âgées, auprès d'hommes et de femmes, auprès de professionnels, auprès de personnes religieuses, auprès d'athées, au carrefour de la vie. Tout ce qui touche la vie, le serviteur doit être en contact. Tout ce qui touche la vie, tout ce qui touche les gens, doit toucher le serviteur aussi. Et c'est pour ça que c'est précieux ce que Marc dit ici, qu'il y a des allants et des venants. Parce que c'est ça la vie. Et c'est ça la vie du serviteur. C'est qu'il voit beaucoup de monde, dans le fond. Et il est en contact avec beaucoup de monde. Remarquez une chose aussi, c'est que Jésus désire les prendre à l'écart pour qu'ils se reposent. Et ça, c'est précieux aussi parce que Jésus est conscient de la réalité que ces hommes sont en train de vivre et que probablement ils sont pas matures encore ou ils n'ont pas toute la compréhension des choses. Mais ils voient qu'il y a de la fatigue, ils voient qu'ils sont impliqués, ils reviennent également d'une mission de plusieurs jours. Et donc Jésus aimerait prendre du temps avec eux. Et Jésus veut leur démontrer également l'importance de prendre du temps à l'écart pour se reposer. Mais ce temps-là de repos n'allait pas être un temps de repos où est-ce qu'ils allaient retourner à leur ancienne pratique, à leur ancienne coutume. Ça allait être un temps où est-ce qu'ils allaient être avec le Seigneur, à l'écart. Ce repos-là que Jésus voulait leur donner, c'était un repos qui était en lui, que lui allait leur fournir, que lui allait leur donner. C'est un repos qu'on retrouve seulement dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'on prend le temps avec le Seigneur, qu'on soit actif, hyperactif, trop actif dans un service, le vrai repos, on le retrouve dans la présence du Seigneur. Donc, la nouvelle réalité des apôtres est celle-ci, c'est qu'il y a une plus grande implication dans l'œuvre. Il n'y en a pas le temps de manger, là. Donc, on rencontre une nouvelle réalité où est-ce que, oh là, le service demande du sacrifice. Ou est-ce que je dois même, des fois, sauter un repas? C'est une réalité aussi où il y a beaucoup d'allant et de venant. On est au carrefour de la ville. Et on est en contact avec tellement de personnes vivant tellement de différentes choses. Et Dieu, à travers nous, veut toucher, veut parler, veut inspirer, veut convaincre. Veut témoigner à toutes ces personnes-là. Et que Jésus est conscient de qu'on a besoin de se reposer, mais le vrai repos, on le retrouve avec le Seigneur dans sa présence. Et tout ça veut nous dire quelque chose de précieux et d'important concernant la vie du serviteur. C'est que la vie du serviteur C'est une alternance entre être avec Dieu et être parmi les hommes, ou être parmi les humains. Jésus appelle les disciples, les appelle auprès de lui. Jésus les enseigne, les prépare, les mobilise, il les envoie auprès des gens. Ces gens-là reviennent, ces disciples reviennent se rassembler auprès de Jésus et ils repartent pour être au carrefour de la vie auprès de tous ces allants et ces venants. C'est une alternance. La vie de service, c'est une alternance entre être dans la présence de Dieu et être avec les gens. Être dans la présence de Dieu, être en compagnie de Dieu et être en compagnie de personnes. C'est cette alternance. Et c'est pour ça qu'on disait à un moment donné, la communion avec Dieu est à la base de tout. Parce que c'est notre vie de service commence, elle est propulsée par notre communion avec Dieu. Donc d'être dans la présence de Dieu et d'alterner et aller voir les gens. Être dans la présence de Dieu et être parmi les gens. Voilà l'importance de la vie du service. Et la réalité qui doit être la nôtre, c'était la nouvelle réalité des apôtres. Et ça doit être la réalité des apôtres de Jésus-Christ, de Montréal, Québec, Canada. Donc, voilà pour la nouvelle réalité des apôtres. Maintenant, quand on va au verset 33 et verset 34, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Oups, je pense que je n'ai pas lu les bons versets. Ben non. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Jésus désire les prendre à l'écart pour ce qu'ils se reposent. Donc, ils montent sur une barque pour traverser la mer de Galilée et aller dans un lieu pour se reposer et être avec le Seigneur. Mais là, il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont dit, ils doivent sûrement se diriger à telle place, fait qu'on va se dépêcher. Maintenant, les disciples étaient en bateau, la foule était à pied. En principe, si le bateau va dans le vent, ben il va aller vite. Et la distance qui était à couvrir entre le point de départ et le point d'arrivée, certains estiment que c'était environ 4 km via la mer. Alors que faire la route à pied, il aurait fallu contourner la mer, passer par des montagnes, et donc la distance était estimée à environ 10 km. Donc on se dit, OK, donc 4 km par les eaux, 10 km par la terre. Toutefois, les gens sont arrivés avant. Moi, je me pose la question, est-ce que Jésus a planifié l'affaire? Il y a peut-être eu, je ne pense pas qu'il y avait du trafic comme ici à Montréal sur la mer de Galilée qui a fait en sorte qu'il y a eu un embouteillage et la barque a pris du temps. Probablement qu'il y avait du vent, le vent était contraire, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas avancé rapidement. Vous vous souvenez que la mer de Galilée, le climat pouvait changer rapidement à cause de des régions montagneuses autour. Et lorsque le vent déferlait, bien, il déferlait avec force. Et des tourbillons ou des tempêtes pouvaient se créer rapidement et simultanément, là, sans avertir. Bref, tout ça pour dire que les gens qui sont partis à pied ont parcouru 10 kilomètres et sont arrivés avant la barque qui avait juste 4 kilomètres à franchir. OK. Et là, les disciples et Jésus, qui probablement déjà s'imaginaient prendre un temps relax, prendre un temps de tranquillité, où est-ce qu'il y avait, il n'y a pas tout ce monde-là qui va, qui vient, pas avoir à parler, à exhorter, à prier, ah, on va être un petit peu tranquille, pouvoir penser un petit peu à nous. Ils arrivent, ils voient la foule. Mais on va aller un petit peu plus loin. La foule qui a vu Jésus quitter avec les disciples, c'est la même foule qui s'est retrouvée l'autre bord. Donc, imaginez-vous, vous dites bye-bye à quelqu'un et vous vous embarquez dans la barque pensant que, OK, ma journée est faite. Puis là, vous allez de l'autre bord et vous rencontrez cette même personne qui vous attend de l'autre bord. Pourtant, vous vous dites, waouh, mais tu sais, il me semble que j'ai prié pour elle, je l'ai exhortée, on a passé la Bible de A à Z, de Genèse à l'Apocalypse, je lui ai donné un enseignement compact. J'ai prié pour elle, je l'ai oint d'huile, posé les mains, tout le paquet. Fait qu'elle est correcte pour partir, pour faire son bout de chemin. Puis là, tout d'un coup, tu te la retrouves face à face, de l'autre bord. Une chose est sûre, c'est que le plan a changé. Le plan a changé, mais je ne pense pas que c'était quelque chose qui a surpris le Seigneur. Je pense que, et on va voir plus loin, je pense qu'il y avait une leçon pour les apôtres et il y avait une leçon pour nous aussi. Donc, en se rendant de l'autre côté, quel est le constat? Le constat est le suivant. C'est que, un, il n'y aura pas de repos. Deux, il n'y aura pas de repas. Trois, il n'y aura pas de privacité. Tu sais, peut-être s'attendait à être tranquille, être tout seul, avoir un moment de paix tout seul, un moment privé. Ben, ça n'arrivera pas, là. Tous ces plans-là viennent d'être changés parce qu'il y a une foule devant eux. Il y a une foule qui les attend. Humainement parlant, quelle aurait été ta réaction si tu es fatigué, tu as faim, mais voilà que la personne que tu avais déjà servie t'attend encore pour que tu viennes la servir? Tu n'auras pas ton temps de repos. Tu vas devoir sauter un repas, peut-être deux. Et tu n'auras pas de privacité. Parce que là, tu es encore exposé devant plein de monde et devant des allants et devenants et tout ça. Honnêtement, mettez-vous à la place, là. Vous êtes dans la barque. La barque s'approche du bord. Vous imaginez déjà vous étendre dans un hamac, manger votre pogo, votre hot dog, je sais pas moi, votre lasagne, tiens, moi j'aime la lasagne. Donc, manger un plat de lasagne, parfait, écoute, passer une belle après-midi, une belle soirée, et puis là, on voit au loin des fourmis, que ça bouge autour du bord. Pourtant, on s'en va dans un lieu désert, il n'y a personne. Et plus on s'approche, plus on entend des cris. Ils sont là, ils arrivent. Humainement parlant, là, on est fatigué, on a faim, comment est-ce qu'on réagit? Ça, c'est une très bonne question. Quelle serait ta réaction et quelle serait ma réaction devant ce merveilleux spectacle qui vient changer nos plans carrément. L'autre verset, 34, il dit, ben, quand il sortit de la barque, Jésus vit à une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Notez une chose, c'est que Marc parle juste de la compassion de Jésus. Fait probablement que les disciples n'étaient pas dans le même état d'esprit, n'étaient peut-être pas dans le même état d'âme que Jésus à la vue de ce merveilleux scénario devant eux. Mais Jésus fut bouleversé. Jésus fut ému de compassion, c'est-à-dire qu'il fut, comme on a vu dernièrement avec parole donnée par le pasteur Florent, c'est que compassion, c'est être bouleversé aux entrailles, là. C'est jusqu'où les tripes sont venues, ce spectacle, pas ce spectacle-là, mais cette image-là qui était devant le Seigneur est venue le chercher jusque dans ses tripes par la compassion. Et il a vu, dans le fond, des brebis qu'ils étaient abandonnés, sans berger. Et vous savez, une brebis sans berger, ben, c'est une brebis perdue. Une brebis a besoin d'un berger. Une brebis sans berger est une brebis qui est perdue. Et donc, Jésus voit la foule et il voit que c'est des brebis qui ont été abandonnées, qui ont été... qui sont sans protection, qui n'ont pas de soins et qui n'ont pas de but non plus. Ce n'est pas où se rendre, ce n'est pas où aller pour trouver sa nourriture. La brebis a besoin du berger qui lui apporte la protection, qui prend soin d'elle et qui la dirige également vers pâturage, là où est-ce qu'elle va pouvoir manger, elle va pouvoir se nourrir, se reposer. Pourtant, il y avait des leaders, il y avait les leaders religieux, il y avait les leaders, les officiers, il y avait les gouverneurs, il y avait le roi et tout ça. Il y avait tout ce monde-là qui était là en place, qui aurait dû prendre soin de ces gens-là, mais ces gens-là étaient sans but, ces gens-là étaient sans aucun sens dans la vie. Ils étaient complètement perdus. Et c'est ce qui a ému le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se met à enseigner des choses. On ne nous dit pas c'est quoi. Peut-être que Jésus a juste répété la leçon qui avait été enseignée de l'autre bord de la mer. On ne sait pas. Mais il s'est mis à enseigner des choses. Il a vu, dans le fond, le besoin spirituel de ces gens comme plus important et plus critique que le besoin matériel. Et il a commencé à donner de la parole de Dieu. La réponse aux besoins de ces brebis perdues, de ces brebis sans direction, de ces brebis sans protection, donc sans confiance, sans assurance, sans aucun soin. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu allait répondre aux besoins de ces brebis qui étaient perdues. Et c'est ce que Jésus fait à ce moment-là en enseignant la parole. En apportant cette nourriture spirituelle en priorité. Et on l'a déjà vu à plusieurs occasions, l'importance de la parole de Dieu. Et plus on avance, plus on comprend et Dieu nous répète l'importance de la parole de Dieu. On ne peut pas sortir de la parole de Dieu. Si je sers quelqu'un, mais je n'apporte pas la parole, mon service doit être portant du message de la parole de Dieu. Si ce que je pense faire comme service n'apporte pas de message, il manque quelque chose. Et je ne vais pas répondre aux vrais besoins des gens. Le vrai besoin des gens, ce n'est pas, c'est pas social, ce n'est pas matériel. Le plus grand besoin des gens, c'est spirituel. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut venir transformer l'âme et l'esprit des gens. Donc, la nourriture spirituelle en priorité. Est-ce que mon action, est-ce que mon service reflète, transmet, prêche l'Évangile, prêche la parole? Ou est-ce que je vois ça comme une action sociale seulement? Ou je vois ça comme une action humanitaire, tout simplement? Donc, de bonnes questions à se poser. Quelles seraient mes réactions si mes plans sont... Si je suis obligé à changer mes plans, si on me force à changer mes plans, quelle est ma réaction? Je veux passer un après-midi ou une soirée tranquille, mais là, il faut que j'aille à l'église pour si ou pour que j'aille m'occuper de telle, telle, telle chose. Ou il faut que j'aille prier avec une personne. Et est-ce que j'y vais vraiment avec la parole de Dieu, avec la compassion dans le cœur, mais aussi avec une parole de Dieu? Les gens ont besoin de la parole de Dieu, pas de notre parole humaine, pas de nos conseils, pas de notre conseil basé sur l'expérience. Des fois, on se dit, ah, ben moi, j'ai vécu ça comme ça, puis voici mon expérience. Mon expérience peut tromper des gens. La parole de Dieu va jamais tromper quelqu'un. La parole de Dieu, elle est complète. Donc, assurons-nous d'avoir cette compassion. Assurons-nous d'avoir la bonne attitude aussi lorsque les plans changent et de garder notre cœur sain devant Dieu et surtout d'avoir un partage de la parole de Dieu. On va aller au verset suivant maintenant, verset 35 à 38. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent, répondirent, 5 et 2 poissons. Ce qu'on remarque ici, c'est que il y a une situation qui se présente. L'heure, elle a avancé. Les gens ont faim. Donc, la multitude a faim, mais les disciples ont encore plus faim. Et là, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, ben, renvoie-les. Et Jésus leur dit, non, donnez-leur à manger. Et là, ils disent, mais avec quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que pour une même situation, il y a deux regards différents. Et parce qu'il y a deux regards différents, il y a deux approches différentes. Et ça doit nous parler. Parce que le regard que nous allons avoir sur une personne, le regard que nous allons avoir sur une situation va déterminer l'approche que nous allons employer et va avoir également un impact sur le service. Les disciples et Jésus ont un regard opposé sur la situation. Ils n'ont pas le même regard et on va le voir. Premièrement, les disciples... Nulle part dans le passage, on nous parle qu'il y a de la compassion. Donc, il n'y a aucune démonstration de compassion. Du côté de Jésus, ben lui, ému de compassion, il le démontre et il prend action et son approche va en lien avec son état d'âme qui est touché, qui est ému devant la situation. Donc, d'un côté des disciples ou des apôtres, pas de démonstration de compassion, et du côté de Jésus, oui, parce qu'il est ému de compassion. L'autre élément qu'on remarque, c'est que en demandant à Jésus de les renvoyer, les disciples sont en train de dire quelque chose à Jésus. Ils disent, regarde, là, la situation commence à devenir problématique. Mais faisons en sorte que ce ne soit pas notre problème. Donc, renvoie-le dans les campagnes, dans les villages, pour que ce soit le problème d'un autre. Le besoin que ces gens-là ont de trouver quelque chose à manger, ben, tu sais quoi? Donnons-le à quelqu'un d'autre, ce problème-là. Que ce problème devienne le problème, ou la situation devienne le problème de quelqu'un d'autre, mais pas de nous. On n'a pas à s'impliquer là-dedans. Ce n'est pas dans notre domaine. De toute façon, on n'a rien pour leur donner à manger. Fait que logiquement, on ne peut pas répondre à ce problème-là. Renvoie-les. Seigneur, que ce soit le problème de quelqu'un d'autre. Et combien de fois, nous, on a agi de la sorte? Où est-ce qu'on était dans une situation? Où est-ce qu'on savait pertinemment qu'est-ce qu'il était attendu de nous? Et nous, on a agi comme les disciples. On a fait en sorte que ça ne soit pas notre, on n'est pas à s'en occuper, mais que ça devienne le problème de quelqu'un d'autre. Puis on transfère ça à quelqu'un d'autre. Ah, on le transfère au pasteur, on le transfère à l'autre ici, on le transfère à l'autre, mais moi, je ne me mêle pas. Mais pourtant, on veut servir, pourtant, on veut servir Dieu et on veut être un instrument utile entre les mains de Dieu. Mais lorsque la situation se présente, on prend la situation puis on la jette dans la cour de quelqu'un d'autre. Un peu contradictoire. Et il y a beaucoup de chrétiens contradictoires qui disent une chose, mais qui en font une autre. Et Jésus parle, hein, des gens qui disent « Oui, 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 Seigneur, je vais y aller », puis finalement, ils ne vont pas. « Oui, Seigneur, je vais aller au champ. Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. » Et là, quand c'est le temps, ils ne sont plus là. « Oh non, j'ai ci comme excuse, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. » Mais dans le fin fond, dans le fin fond, combien de fois on a voulu présenter des excuses juste pour ne pas avoir s'occuper d'une situation et que ça soit le problème de quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas voulu rater notre repas. Parce que on voulait avoir notre temps de privacité. Parce qu'on voulait se reposer dans notre hamac ou dans notre fauteuil en train de regarder Netflix, je ne sais pas. À l'opposé, Jésus, lui, il dit autre chose. En disant, donnez-leur vous à manger, il est en train de dire, non, on ne va pas transférer ce problème-là à d'autres. C'est l'Église qui doit s'en occuper. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas les autres institutions qu'on a dans le monde. C'est l'Église qui doit s'en occuper. Et donc, Jésus dit, on va s'en occuper. Jésus, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait, comme il a travaillé à travers eux, durant cette mission, lorsqu'il les a envoyés deux par deux, il voulait juste continuer de la même sorte et dire, bon, je vais travailler à travers vous. Donc, on va s'en occuper. Le regard qu'on va avoir va déterminer l'approche qu'on va avoir également. Un cœur qui n'a pas de compassion, un cœur qui est froid, qui est insensé face à une situation, va voir ça comme un fardeau puis va dire, moi, je ne suis pas intéressé à m'en occuper. C'est trop plate. J'ai pas de défi. Ou c'est pas stimulant. Ou je suis fatigué. Ou je veux pas sauter mon repas de lasagne. Donc, j'envoie ça, qu'un autre s'en occupe. Alors que Jésus, lui, et les vrais disciples, ce sont ceux qui vont être émus de compassion et qui vont agir en conséquence. Et qui vont dire, on va s'en occuper. On va répondre aux besoins. On va servir. On va servir ces gens-là. Même si on les a déjà servis de l'autre côté de la mer. Puis là, on les retrouve encore ici. C'est correct. On est là pour prendre soin d'eux. Et là, Jésus leur dit, bon, donnez-leur vous-même à manger. Mais les autres, ils disent, mais où est-ce qu'on va aller acheter pour 200 deniers? 200 deniers correspond à peu près à 6 mois de salaire. Où est-ce qu'on va aller trouver de l'argent qui correspond à 6 mois de salaire pour acheter du pain à toute cette gang-là? Les disciples sont en train d'agir en tant que gestionnaires. Ils ont un regard de gestionnaire. Ils calculent, ils font les calculs, ils regardent leur inventaire. Ils disent, ça ne marche pas, Jésus. Je ne sais pas à quelle école tu es allé, toi, mais moi, mes mathématiques sont bonnes, puis ça ne marche pas ton affaire, Jésus. On ne peut pas le faire. Fait que ça règle la question. Alors que Jésus voulait qu'ils aient un regard de foi. Qu'au moment où est-ce que Jésus leur dise, vous, vous allez vous en occuper, les autres, ils puissent dire, Seigneur, comment? Montre-nous comment faire. Mais les disciples, à ce moment-là, ils ont manqué cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y avait une mauvaise disposition de cœur qui a fait en sorte qu'ils ont eu un mauvais jugement, un mauvais regard de la situation et qu'ils ont agi froidement, comme des gestionnaires. Ils ont dit, ben, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Puis où est-ce qu'on va aller l'acheter? Jésus, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes à ta proposition. C'est que, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ici? Ou est-ce que c'est désert? Ou est-ce qu'il n'y a personne? Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Et si on avait l'argent, ben on va aller acheter où? Où est-ce qu'on va aller? Fait que tu vois, Jésus, il y a beaucoup de questions à répondre. Il y a beaucoup de questions sans réponse à ton approche. Et combien de fois, nous, on réfléchit de la même façon, puis on se dit, ben ça ne tient pas la route, tout simplement. Parce qu'on regarde nos moyens, on regarde notre capacité, on regarde nos ressources, et donc on a un regard d'administrateur, de gestionnaire, et on se croit très intelligent. On se croit très sage. Mais on a manqué l'opportunité de vivre par la foi et de venir au Seigneur et dire, Père, comment est-ce que tu veux qu'on serve dans cette situation? Comment est-ce que tu veux que nous nous occupions de ce besoin? On n'a pas les moyens. On est en récession. Il n'y a rien autour. Seigneur, comment veux-tu que nous le fassions? Si tu veux qu'on l'exécute. Et la parole de Dieu dit, tout ce qu'il dit, il l'exécute. Faisons attention de ne pas offenser Dieu là-dessus, parce qu'on a un manque de foi ou parce qu'on a une mauvaise disposition de cœur, parce que tout ce que Jésus dit, il l'accomplit. Il a dit qu'on allait s'en occuper, c'est ce qui va arriver. Mais si on a une mauvaise disposition de cœur, on risque d'être juste écarté, automatiquement. Parce qu'on ne répond pas aux critères de Dieu pour le service dans ces situations-là, que c'est de faire confiance à Dieu. Donc, en sachant que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit, raison de plus pour nous, de lorsque Jésus nous dit, on s'occupe de cette situation-là, on vient à lui et on lui dit, Seigneur, montre-moi, parle-moi, enseigne-moi. Parce que je n'ai pas les moyens. On n'est pas dans un environnement favorable. Mais si toi tu le dis, alors ça va s'accomplir. Montre-moi. Montre-nous comment, Seigneur. C'est ce que les disciples auraient dû faire. Et quelque chose d'important, c'est qu'ils étaient dans un lieu de désert. Okay? Et le terme grec pour désert, c'est eresmo. Et eresmo a deux volets dans sa signification. La première, c'est par rapport à un lieu. Donc, c'est un lieu qui est abandonné, un lieu qui n'a pas été, qui n'a pas été conservé, qui n'a pas été cultivé. Mais ça parle aussi de personnes. Ça fait référence à des personnes. Donc, des personnes qui ont été abandonnées par des autres, des personnes qui ont été négligées par d'autres. Jésus voit ces gens négligés par la société, par les dirigeants, comme des brebis sans berger, dans ce lieu désert. Et les apôtres étaient prêts à négliger toute cette foule qui avait déjà souffert assez de négligence et d'abandon. Les apôtres, les enfants de Dieu, s'apprêtaient à négliger un service à des gens qui avaient déjà souffert beaucoup de négligence et d'abandon. Et bien-aimés, nous vivons dans une société où les gens sont négligés, même dans les familles, où les gens sont laissés à eux-mêmes. Où des enfants sont négligés par leurs parents, sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et ces gens-là grandissent, ils répètent le même cercle vicieux. On vit dans une société où il y a des gens qui sont abandonnés, négligés par le système. L'Église ne peut pas faire la même chose. L'Église n'a pas le droit de faire la même chose. Ça serait grave qu'en tant qu'Église, on soit négligent envers ces gens-là. C'est dangereux se retrouver à RSMO avec une mauvaise disposition de cœur. Pas tout va être beau. Il y a des fois où les circonstances vont être difficiles. Il y a des fois où les changements de plan ne vont pas être agréables. Et on va se retrouver dans une situation RSMO. Faisons attention de comment nous allons servir et avec quelle attitude de cœur nous allons servir dans ces circonstances-là. Parce que si les disciples s'apprêtaient à négliger ces gens-là, nous, on est constitués de la même nature. Et certainement qu'on a négligé du monde dans le passé et Jésus ne veut plus que ça se fasse. Certainement qu'en tant qu'Église, nous avons négligé du monde. Une chose est sûre, Jésus ne veut plus que ça se répète au milieu de son peuple. Il ne veut plus de négligence. Il ne veut plus de négligence. L'enjeu est trop important. La situation est trop critique pour que nous, à cause d'un repas, ou à cause d'un peu de privacité ou un peu de loisir, on néglige le service que Dieu s'attend de nous. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons. Entre tous, tous mangèrent et furent rassasiés. On voit maintenant ici, Jésus prend les rênes. Jésus fait acte de leadership. Il dit, OK, là, ça suffit. On va se mettre en action. Et on va servir ces gens-là. Et on peut ressortir 3 blocs ou 3 étapes qui sont essentielles dans un service, dans ce qu'on a vu ici. La première, c'est l'organisation. Dans les premiers versets qu'on a lus, donc verset 39, il dit « Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. » Donc, Jésus voit la multitude, c'est pêle-mêle, c'est désorganisé, il n'y a pas de but, il n'y a rien, c'est des brebis perdues. Et là, la première chose que Jésus fait, il dit, il faut que ce soit organisé. Il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on va servir. Donc, on ne se lance pas juste dans le service. Il faut comprendre le besoin. Et il faut voir quel est le niveau d'organisation qui est nécessaire avant le service, avant de rentrer en action. Donc l'organisation est importante. Et c'est très cher à Dieu. Et plus encore aujourd'hui, dans le temps qu'on vit, une église qui est organisée est une église qui va beaucoup gagner. Une église qui est bien organisée est une église qui va beaucoup gagner. Et ce sera un témoignage également auprès des inconvertis. Des gens vont avoir plus confiance de faire, de venir, de visiter, de rentrer dans une église qui est organisée plutôt qu'une église qui est négligente. Oh, on retrouve le mot, qui est négligente par rapport, par exemple, aux différentes normes de la santé publique. Les gens sont très sensibles à ces choses-là. Donc, une église organisée, c'est une église qui va être gagnante. Deuxième, c'est que au verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. L'autre élément qui est essentiel dans le service, c'est la prière. Mais pas juste n'importe quelle prière, la prière de bénédiction. Seigneur, qu'à travers ce service, cette personne soit bénie. Seigneur, qu'à travers mon service, Montréal soit béni. Seigneur, qu'à travers mon témoignage, ma famille soit bénie. Seigneur, qu'il y ait la bénédiction qui tombe dans ce que je vais faire. Que tu m'accompagnes, Seigneur, avec ta puissance. Que tu m'accompagnes, Seigneur, avec ton onction. Qu'il y ait, Seigneur, la conviction de l'esprit qui travaille dans les cœurs, alors que moi, je vais être tout simplement en train de faire un service. Mais Seigneur, béni. Béni. Donc la prière. Mais la prière pour la bénédiction. Là. La prière pour que ces gens-là soient bénis. Ces gens-là soient touchés. Ces gens-là soient convaincus. Ces gens-là aient une lueur d'espoir. Ces gens-là se relèvent de leur situation. La prière. Et par la suite, au verset... Toujours au verset 41, il dit, « Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. » Donc, à rendu là, il passe à l'action. Il y a eu une étude de la situation et voir comment est-ce qu'il s'organise. Puis il a prié pour la bénédiction de Dieu. Il a prié pour que tout ce qu'il y a dans le ciel en faveur de cette personne ou de cette situation, puisse être déversée. Que le ciel vienne sur terre dans la situation qui est devant nous. Seigneur, je ne peux pas le faire dans mes propres forces, je ne peux pas le faire dans mes propres ressources, mais toutes les ressources qu'il y a dans le ciel puissent descendre, Seigneur, dans cette situation et que toi, tu puisses te glorifier. Et par la suite, il y a l'action. On passe à l'action. On passe à l'action. Et le résultat, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » Premièrement, tout le monde a été impacté, tout le monde a été rejoint. Les milliers de personnes qui étaient là, tous, il n'y a pas un seul qui s'est retrouvé négligé. Il n'y a pas un seul qui s'est retrouvé non servi. Tous ont été servi. Et tous furent rassasiés. Le mot qui est important ici, c'est tous. Jésus s'attend à ce que tous soient servis. Jésus s'attend à ce que tous soient bien accueillis, soient bien reçus dans cette maison. Jésus s'attend que tous soient bien aimés, soient pris aux soins. Jésus s'attend que tous reçoivent du ministère, reçoivent de la parole, que tous soient pris en main et que tous soient nourris spirituellement en premier et ensuite selon les différents besoins qui peuvent être devant nous. Tous mangèrent et tous furent rassasiés. C'est-à-dire qu'ils furent servis jusqu'à ce qu'ils furent rassasiés. Personne resta à la moitié de sa faim. Personne resta aux trois quarts de sa faim. Tous furent rassasiés. C'est-à-dire, c'était complet. Le service était complet. Tout le monde était servi et tout le monde a été servi complètement. Voilà le service de Dieu. Voilà le service que Jésus s'attend de chacun d'entre nous. Mais tout commence avec l'attitude et le regard que nous allons porter sur les situations. As-tu la bonne disposition de cœur? As-tu la bonne attitude? Et je te le dis déjà, si tu veux servir le Seigneur, tes plans vont changer. Ce que tu mets à l'agenda une journée, Dieu va le changer. Es-tu prêt à accepter, à vivre cela? Es-tu prêt à sauter un repas, peut-être même deux? Es-tu prêt à partager ton repas? Es-tu prêt à mettre de côté une soirée agréable devant la télévision ou entre amis pour aller servir? Es-tu prêt à sacrifier ça pour aller servir les gens, pour servir comment Dieu veut que tu serves? Mais l'important, c'est que tous doivent manger, que tous doivent être rassasiés. En résumé, donc, nous avons vu que les disciples sont passés de disciples à apôtres et que par là, il y a une démonstration de croissance, de maturité, de progression dans la vie et dans cette équipe-là de ministère. On a vu également qu'il y a une nouvelle réalité qui s'installe dans la vie des apôtres. Une vie parce que là, c'est un autre rythme. Et dans ce rythme-là, eh bien, l'implication dans le service va amener à faire des choix et à faire des sacrifices des fois. Et on a dit que la vie du serviteur, c'est une vie en alternance entre être avec Dieu, être en compagnie de Jésus, être en compagnie du Seigneur et être parmi les gens. Être parmi Dieu, être parmi les gens, ou être avec Dieu, être parmi les gens. Et que parfois, eh bien, il va falloir sacrifier du repos, sacrifier un repas de lasagne ou sacrifier un peu de privacité dans le but de servir. Et devant la foule, les disciples et Jésus ont eu un regard différent. Quel sera ton regard, toi, à partir d'aujourd'hui? Quel sera ton regard? Auras-tu le regard de Jésus ou auras-tu un regard humain? As-tu négligé une brebis perdue dans le passé? Et ça, c'est important que chacun d'entre nous, on fasse cette introspection avec le Seigneur. Parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé, qui ont besoin d'être réglées pour aller de l'avant. Seigneur, est-ce que j'ai négligé une brebis perdue dans le passé? Et comment est-ce que je peux éviter cela? Ou comment est-ce que je peux me reprendre? Et on a vu aussi qu'un service réussi, il y a trois étapes ou trois éléments. Un, une organisation. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu organisé. Deux, la prière, mais la prière pour amener la bénédiction sur la vie de ces gens-là. Et trois, passer à l'action pour voir un service réussi où tous sont servis et tous sont servis complètement. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, parce que ta parole, elle est riche, elle est précieuse, elle est puissante. Seigneur, ta parole fait des merveilles. Ta parole est épée. Ta parole, Seigneur, fait des prodiges, Seigneur. Tout dans ce monde, Seigneur, est soutenu par ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que elle nous est accessible et tu nous ouvres les yeux et l'entendement pour découvrir la richesse et la profondeur qu'il y a et la beauté, Seigneur, aussi, qu'il y a en elle. Je demande, Seigneur, d'illuminer nos cœurs, de travailler dans nos vies, Seigneur, de façon profonde et individuelle, mais aussi en tant que collectivité, en tant que corps de Christ. Seigneur, pour amener notre vie à ce niveau-là que tu t'attends de nous, à ce niveau de service, à ce niveau de disposition, à ce niveau de compréhension de ce que c'est le vrai service. Et Seigneur, de suivre tes pas. De suivre tes pas, Seigneur. Alors je te rends grâce pour tout cela, Seigneur, et pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. On prie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. N'oubliez pas demain matin la bénédiction matinale avec le pasteur Florent. Et également dimanche matin, vous allez voir cette assemblée spéciale en célébration, si on peut dire, de l'anniversaire de l'Église, la conférence. Comme vous le savez, on ne pourra pas être ici à célébrer, louer le Seigneur tous ensemble. Mais prenons quand même le temps de remercier Dieu, d'avoir des actions de grâce et d'être présent via la connexion Internet dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis shalom.